VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 26 juillet 2019. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Cameroun, une mutinerie dans la prison de Boya a fait 45 blessés.
Une centaine de migrants ont été portés disparus après un naufrage au large de la Libye.
Le leader nord-coréen Kim Jong-un avertit que les tirs de missiles de jeudi sont une mise en garde à Séoul.
Les États-Unis reprennent les exécutions fédérales après 16 ans d'interruption.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Cameroun, 45 personnes, dont 43 détenus, ont été blessées mardi au cours d'une mutinerie à la prison principale de Boya, chef-lieu du Sud-Ouest, une des deux régions anglophones où s'affrontent depuis près de 3 ans l'armée et les séparatistes. Des détails avec John Lyndon.
Le bilan général de la mutinerie fait état de 2 éléments de force de sécurité blessés et de 43 détenus blessés, selon un communiqué publié par René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Il insiste qu'aucun décès n'a été enregistré. L'enquête menée à ce point indique que 20 insurgés identifiés comme mineurs ont été placés à la disposition des services de police judiciaire de la région du Sud-Ouest. Pour le gouvernement, les mineurs de cette révolte sont essentiellement des personnes arrêtées puis placées en détention provisoire dans le cadre de la crise anglophone. Mardi, ils avaient barricadé l'entrée principale de la prison, saccagé certaines installations et incendié la bibliothèque, un bureau et un magasin de vivres. Les auteurs de cette fronde revendiquaient l'amélioration de leurs conditions de détention et leur jugement selon des sources concordantes. Dans la nuit de lundi à mardi, une autre mutinerie avait déjà secoué la prison centrale de Yaoundé avec des coups de feu, le saccage et l'incendie de certains services. Plusieurs détenus, dont au moins 2 personnalités, avaient été blessés.
Plus de 100 migrants sont portés disparus après le naufrage hier de leur bateau au large de la Libye. C'est ce qu'indiquent la HCR et la marine libyenne qui parlent aussi d'une centaine de rescapés. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon le haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi, la pire tragédie en Méditerranée cette année vient de se produire. Pour sa part, un responsable de l'Organisation internationale pour les migrations précise que le naufrage est survenu au large de la ville libyenne de Homs, à 120 km à l'est de Tripoli. D'après Safa Serli, 145 migrants ont été secourus par les gardes-côtes libyens et ramenés vers Homs. Certains survivants ont raconté que leur bateau avait coulé et qu'il y avait encore à bord quelques 150 migrants, a ajouté Madame Serli. Mais selon le général Ayoub Kassem, porte-parole de la marine libyenne, il s'agit d'une embarcation en bois transportant environ 250 migrants clandestins, dont des femmes et des enfants. Avant le naufrage annoncé hier, le HCR et l'OIM avaient fait état d'au moins 426 personnes mortes en tentant de traverser la Méditerranée depuis le début de l'année. En dépit des risques d'une traversée périlleuse et des restrictions sur la rive nord de la Méditerranée, les migrants prennent encore la mer, préférant tenter leur chance plutôt que de rester en Libye.
L'ONG Action contre la faim a demandé hier la libération de 6 de ses employés, dont une femme, enlevée il y a une semaine au Nigeria. Le groupe nigérian de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, branche de Boko Haram, affilié à l'organisation État islamique, a diffusé jeudi une vidéo dans laquelle une femme, vêtue d'un hijab bleu clair, affirme en anglais qu'elle est membre de l'ONG française et qu'elle a été enlevée avec ses cinq collègues assis derrière elle sur la vidéo. Selon un communiqué de la présidence nigériane, des contacts sont en train d'être noués et on parle aux ravisseurs.
D'anciens membres des Jungles, considérés comme l'équivalent des escargots de la mort en Gambie, ont accusé hier l'ex-président Yahya Jammé d'avoir ordonné en 2013 le meurtre de 2 hommes d'affaires américano-gambiens qu'il soupçonnait de préparer un coup d'État. Ils ont dit à la commission Vérité et Réconciliation que Jammé leur avait demandé de découper en morceaux Alhaji Cissé et Ibou Diop. Plus tôt dans la semaine, ils avaient accusé leur ancien président d'avoir commandité le meurtre du célèbre journaliste Deida Haïdara et de dizaines de migrants ghanéens pour la plupart, arrêtés sur une plage de Gambie et pris pour des putschistes.
Le président américain Donald Trump a rendu hommage hier au leadership phénoménal de son homologue tunisien Béji Caïd Essebsi, mort à 92 ans, tandis que le secrétaire d'État Mike Pompeo saluait un ami proche des États-Unis. De son côté, le principal membre démocrate de la Commission des affaires étrangères au Sénat, Bob Menendez, a aussi présenté ses condoléances à la Tunisie et à la famille du défunt.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, l'armée a annoncé avoir arrêté 16 soldats du prestigieux corps des Marines en Californie pour leur participation à un trafic d'immigration clandestine en provenance du Mexique. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
Des informations obtenues au cours d'une enquête sur un trafic de migrants ont précipité ces arrestations, précise le communiqué qui invoque diverses activités illégales allant du trafic d'êtres humains à la consommation de drogue. Début juillet, Byron Darnell Lord et David Xavier Salazar Quintero, membres du corps des marines, avaient été interpellés par une patrouille frontalière alors qu'ils transportaient 3 immigrants sans papier à environ 10 km de la frontière mexicaine en Californie. À l'arrière de leur véhicule, 3 Mexicains étaient prêts à payer 8 000 $ pour être introduits illégalement aux États-Unis. Au cours de leurs auditions, les deux hommes se sont accusés mutuellement. Ils ont avoué qu'ils gagnaient entre 500 et 1 000 $ pour chaque voyage. Le corps des marines indique cependant qu'aucun des militaires arrêtés n'était déployé le long de la frontière mexicaine dans le cadre de la lutte contre l'immigration illégale en vue d'une meilleure maîtrise des flux migratoires aux États-Unis.
Le Bureau fédéral des prisons est prêt à reprendre les exécutions aux États-Unis après un hiatus de 16 ans. Celles de 5 prisonniers sont prévues dans les prochains mois. C'est ce qu'a annoncé hier le ministère de la Justice après avoir adopté un nouveau protocole d'injection létale. Ces 5 hommes, condamnés à mort par des jurys fédéraux pour meurtre, ont épuisé tous leurs recours légaux selon les autorités. 65 prisonniers attendent actuellement dans les couloirs de la mort des prisons fédérales américaines.
Des Portoricains ont célébré hier dans la Liesse leur victoire après la démission de leur gouverneur Ricardo Rosello au centre d'un scandale de messages sexistes et homophobes dans ce territoire américain dévasté par des ouragans en 2017. La situation de M. Rosello était devenue intenable après près de 2 semaines de contestation populaire.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'est dit prêt jeudi à se rendre à Téhéran, le cas échéant, et aussi disposé à apparaître à la télévision iranienne pour avoir la chance de s'adresser au peuple iranien. M. Pompeo répondait à une question de Bloomberg TV. Le président Donald Trump accuse l'Iran chiite de déstabiliser le Moyen-Orient. Washington est sorti unilatéralement de l'accord international de 2015 pour limiter le programme nucléaire de l'Iran et a depuis multiplié les sanctions pour lui couper ses revenus.
Les milices que la Corée du Nord a tirées jeudi sous la supervision personnelle de Kim Jong-un sont un nouveau type d'arme tactique guidée. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi son agence de presse, ajoutant qu'il s'agit, je cite, d'un avertissement solennel aux militaires bellicistes sud-coréens. Fin de citation. Les deux missiles à courte portée tirés hier par Pyongyang se sont abattus en mer du Japon. Pour la Corée du Nord, les prochains exercices militaires américano-sud-coréens pourraient empêcher la reprise des négociations avec Washington sur le nucléaire nord-coréen.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La Namibie envisage d'ajouter 220 mégawatts à son réseau électrique pendant qu'elle cherche à réduire ses importations. La Namibie, qui a une capacité de 606 mégawatts, est un pays importateur net d'électricité, principalement de pays voisins comme la Zambie et l'Afrique du Sud. NamPower, la compagnie namibienne d'électricité, construira des générateurs éoliens, solaires et à biomasse dans les régions centrales et côtières pour fournir 150 mégawatts. La Tanzanie a octroyé des licences à des entreprises chinoises pour la construction d'une fonderie de minerais et de 2 raffineries d'or dans le cadre de ses efforts visant à générer davantage de revenus provenant de l'industrie minière. Le ministère des Minéraux a déclaré que d'autres sociétés chinoises se verront prochainement attribuer des licences d'exploitation de mines. Chacune d'elles nécessitera un investissement de plus de 100 millions de dollars. Pour terminer, le FMI débloquera une nouvelle et dernière tranche de prêts d'environ 2 milliards de dollars pour l'Égypte, ce qui fait un total d'environ 11,9 milliards de dollars depuis novembre 2016. Le fonds estime que le pays a atteint ses principaux objectifs dans le cadre du programme de ses réformes économiques cruciales entreprises. Celles-ci ont permis de corriger d'importants déséquilibres externes et internes, tout en parvenant à une reprise de la croissance et de l'emploi. La dette publique a été placée sur une trajectoire clairement en baisse.
Les sports à présent avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Des nouvelles de l'AfroCAN en basketball pour commencer.
L'affiche de la finale de ce tournoi qui se déroule à Bamako, au Mali, est connue. Les deux demi-finales se sont disputées hier. On fait le point avec Siaka Traoré, notre correspondant dans la capitale malienne.
Tombeur du Mali, pays organisateur en quart de finale, le Maroc s'est vu à son tour éliminé par le Kenya en demi-finale. Score 66 à 96. Quant au deuxième finaliste, notamment la RD Congo, elle a battu l'Angola sur le score de 84 à 78. Cette première édition de l'AfroCAN senior masculin de basketball qui a enregistré 12 pays a été celle des surprises, car les deux pays finalistes n'étaient pas attendus à ce niveau de la compétition. Comme pour dire que la balle au panier n'est plus l'apanage d'un seul pays. Donné favori généralement lors des compétitions de basketball, des pays comme par exemple l'Égypte, le Nigeria, l'Angola ou encore le Mali ont été surpris cette fois-ci. Le Mali se contentera seulement d'un de ses deux objectifs qu'il s'était assigné à l'entame de la compétition, notamment la réussite de l'organisation. Celui de remporter le trophée étant perdu, qui du Kenya ou de la RD Congo va soulever le premier trophée de la première édition de cette AfroCAN. Attendons donc demain samedi 27 juillet 2019 à 18h temps universel. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
Cette compétition de basketball appelée AfroCAN est moins connue sur le continent. Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, nous explique ce que c'est.
Il s'agit de la première édition de l'AfroCAN, l'équivalent du CHAN, championnat d'Afrique des Nations en football, qui depuis 10 ans met en lumière les joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux respectifs. La seule différence en basketball est qu'en phase finale, sur les 12 joueurs qualifiés par sélection nationale, 8 doivent provenir du championnat local, 2 de l'Afrique et les deux derniers d'un autre championnat en dehors du continent. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Basketball toujours, ici aux États-Unis, Team USA remplace ses joueurs qui ont renoncé au mondial.
Thaddeus Young des Chicago Bulls, Julius Randle des New York Knicks et Mason Plumlee des Denver Nuggets font partie des 6 joueurs ajoutés à la sélection américaine pour le mondial 2019 de basket en Chine. Ces 6 nouveaux joueurs comprennent aussi Marcus Smart et Jaylen Brown des Boston Celtics ainsi que Montrezl Harrell des Los Angeles Clippers. Ces nouveaux venus remplacent le 9 désistement que déplore Greg Popovich, l'entraîneur de la sélection américaine qui visera le triplé à la Coupe du Monde en Chine du 31 août au 15 septembre après ses sacres en 2010 et 2014.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République centrafricaine, l'attribution du marché de confection de la carte nationale d'identité et d'autres documents administratifs à une société libanaise fait monter la tension dans le pays. Syndicats de police, hommes politiques et sociétés civiles, tous s'insurgent contre cette décision des autorités de Bangui. Correspondance de Freeman Sipila, notre correspondant à Bangui.
La confection de ces cartes nationales d'identité a cessé depuis la prise de pouvoir par la coalition rebelle Seleka en mars 2013. Tous les appareils avaient été pillés et le bâtiment saccagé. Depuis lors, le département de la sécurité ne délivre que des récépissés qui ne durent que 3 mois renouvelables. Après une première tentative échouée d'attribution du marché de confection de ces documents à une société étrangère en 2017, le gouvernement décide cette fois de l'attribuer à une société albano-libanaise dénommée Almadina malgré un avis défavorable d'une équipe d'experts. Almadina est cette entreprise qui confectionne depuis quelques mois déjà les titres de transport en Centrafrique. Là où le bas blesse, c'est l'augmentation des frais d'établissement de cette carte qui doit passer de 5 000 francs à 15 000 francs CFA avec une validité de 5 ans au lieu de 10 ans comme la loi le demande. Le syndicat des policiers s'insurge contre cette décision et s'inquiète pour la sécurité du pays. Colonel Mathurin Barnabé Lamba, secrétaire général du syndicat.
Le chef de département a confié la délivrance de la carte de séjour, des cartes nationales d'identité, des visas, des déclarations de perte, des laissez-passer et sauf-conduit à une société libanaise nommée Almadina. Ça, c'est un manque à gagner pour l'État. Et vous savez que présentement, l'État est en train de traverser une période critique où les mercenaires, l'avant passé, le ministre lui-même, il a dit qu'il y a des mercenaires qui sont là. Et si on donnait ce droit-là à cette société libanaise, mais il y aura encore des terroristes qui vont venir.
Le ministre de la sécurité publique, le général Henri Wanze Lingisara, est mis en cause dans cette affaire qui fait encore un buzz sur les réseaux sociaux. Parmi ses revendications adressées ce mardi au gouvernement, l'opposition réclame la révocation du ministre en question. Gervais Lakosso, coordonnateur du mouvement Ezingo Biani.
Ezingo Biani, Front Uni pour la défense de la nation, ajoute les revendications ci-après à celles déposées sur la table du gouvernement. La révocation du gouvernement et la traduction des ministres des Mines, de la Sécurité publique et de l'Environnement devant la justice. L'annulation de l'acte d'attribution à la société Almadina du marché d'établissement des cartes nationales d'identité et autres documents administratif.
Dominique Yandoka, secrétaire général du mouvement politique ITA, dénonce une attitude irresponsable des autorités de Bangui.
Je demande en tant que centrafricain au ministre de la Sécurité publique de sursoir à cette prise de décision car c'est une décision non seulement qui met le pays en danger, mais c'est une honte. Donc personne en tant que centrafricain ne peut accepter à ce que ces documents d'identité soient gérés et pilotés que par des étrangers.
Éclaboussé par des réactions et là, le gouvernement n'a pas encore réagi à cette affaire. Entre-temps, les appels au boycott se multiplient sur les réseaux sociaux. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Mali, les assises de 3 jours sur la malnutrition ont permis l'élaboration de stratégies qualifiées d'efficaces. La rencontre de Bamako a vu la participation de plusieurs experts et de personnalités comme le vice-président ivoirien Daniel Kablan Duncan ou l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete. Kassim Traoré revient sur les temps forts de cette rencontre.
Selon les chiffres de l'UNICEF, 55 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition dans le monde. 50% des 10 millions de décès d'enfants est dû à ce phénomène. Au Mali, 4 sur 5 enfants sont atteints d'anémie. C'est pourquoi les travaux de Bamako ont été axés sur la prévention. Docteur Si Aminata Traoré.
Pour prévenir la malnutrition, il faut travailler ensemble avec la communauté, donc dépister très tôt. À travers ce bracelet, donc le miracle qui leur est donné, leur permettre d'arriver dans un centre de santé où le personnel est formé, à la prise en charge de cette malnutrition avec des outils simples de dépistage, avec des aliments simples de prise en charge comme les pâtes alimentaires. Donc toute cette chaîne émaillée qui permet de faire une prise en charge efficace.
Plusieurs cas pratiques de traitement ont été présentés par les professionnels lors des travaux en groupe. Docteur Koumari.
C'est des cas comme ça, spécifiquement, en plus de la malnutrition aiguë sévère, le traitement médical est adapté et ça mérite une surveillance de 24 heures sur 24, d'où le schéma interne d'hospitalisation.
Ce partenariat, c'est un modèle qu'il faut essayer de multiplier, de fortifier et aussi de répandre au niveau national. Ça complète l'action de l'UNICEF et ça a un fort impact sur la réduction de la malnutrition au niveau du Mali.
L'échange d'expérience entre les professionnels est perçu comme une école pour certaines participantes.
Si réellement nous avons l'équipement nécessaire pour mettre en exergue cette formation que nous allons recevoir ici, je dirais que le Mali, d'ici 10 ans, nous allons vaincre la malnutrition.
La perspective de voir qu'il y a toujours de la malnutrition qui est là et il y a toujours des enfants qui souffrent de malnutrition, ça me prend le cœur. Donc ça me donne la force de venir toujours pouvoir lutter contre ce fléau-là.
La Côte d'Ivoire, à travers son vice-président Daniel Kablan-Duncan, a participé aux travaux.
On a échangé d'ailleurs tout à l'heure avec lui le développement des cantines scolaires, de manière à ce que les enfants mangent bien. Madame Jada Verbung donnait des expériences des autres pays, indiquées au président et au premier ministre, qui a le centre qui s'appelle le Centre d'excellence régionale pour la lutte contre la faim et la malnutrition, qui a été installé à Abidjan le 25 mars et qui va couvrir, pour le moment, couvre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, mais qui pourra donc concerner donc l'ensemble d'Afrique. Et il permettait donc d'échanger les expériences dans le domaine de la malnutrition et dans le domaine, disons, de la petite enfance.
La lutte contre la malnutrition coûte chaque année 265 milliards de francs CFA à l'État malien. Docteur Boubou Cissé, Premier ministre.
Au Mali, en 2019, un enfant sur cinq est atteint de retard de croissance ou malnutrition chronique et plus d'une femme sur deux souffre aussi d'anémie. Les résultats de l'étude sur le coût de la faim indiquent que la malnutrition coûte environ 265 milliards de francs CFA par an, soit 4,06% du produit intérieur brut de l'État malien.
Les trois jours de travaux ont permis l'élaboration des stratégies efficaces contre ce phénomène qui constitue un problème de santé publique. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
En Afrique du Sud, la toxicomanie devient si inquiétante dans le pays que le président Cyril Ramaphosa a dû faire en juin une déclaration sur ce fléau. Reportage à Soweto, à Johannesburg même et dans la ville du Cap, présenté par Michel Joseph.
Ashley Abraham, Sud-Africain, 38 ans, est accro au niaoupé, un mélange artisanal à base d'héroïne et de marijuana qui provoque de profondes somnolences. Tous les jours, Ashley gagne quelques pièces en enfournant des passagers dans les minibus d'un carrefour bruyant du township de Soweto. Pas de quoi mener grand train, juste ce qu'il faut pour se payer ses doses quotidiennes de drogue. À ses débuts, Ashley se droguait pour imiter ses semblables. Depuis, et malgré les regrets, il ne peut plus s'arrêter.
En fait, je n'ai pas de raison principale de l'utiliser, mais c'était fondamentalement juste pour s'intégrer. La pression des pères joue un rôle très important dans cette affaire et j'étais juste stupide. Comme je l'ai dit, je regrette le jour où j'ai pris cette drogue. Je regrette parce que je ne savais pas que c'était difficile d'arrêter. Personne ne m'avait parlé des effets qu'il aurait sur moi.
Hautement addictif, le niaoupé fait des ravages dans les villes et campagnes sud-africaines. Comme Ashley, il serait 100 000 consommateurs réguliers d'héroïne en Afrique du Sud, selon un rapport publié en mars dernier par le projet européen INACT, un projet d'aide à la lutte contre la criminalité organisée transnationale en Afrique. D'après ce rapport, l'héroïne est une matière première de base qui irrigue toute l'économie criminelle dans le pays. Dans tout le pays, en effet, de nombreuses rues sont devenues des supermarchés de la drogue, dénoncent en chœur ONG et experts qui accusent la police et le gouvernement de passivité au mieux, de complicité au pire. L'ONG Outreach Foundation vient en aide aux jeunes toxicomanes en difficulté. Mais ses résultats sont mitigés, car bon nombre de toxicomanes replongent après avoir entamé une cure de désintoxication. Le gouvernement sud-africain reconnaît l'ampleur du problème et vient de lancer un énième plan d'urgence pour l'enrayer. Nous espérons qu'il va réduire la demande de drogue, permettre de démanteler les filières et libérer nos jeunes de ce mal, a dit en juin le président Cyril Ramaphosa, soulignant que l'âge moyen des consommateurs est de plus en plus bas. Mais dans un pays à l'économie flagellante où le chômage frappe plus de 50% des jeunes, la route s'annonce longue.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au Gabon, fin de l'anarchie dans le transport urbain à Libreville, le gouvernement a fixé les conditions de l'exercice de la profession de taximan à Libreville. Cette décision est assortie d'un communiqué du ministère des Transports enjoignant les acteurs du secteur de se conformer à ces nouvelles conditions dans un délai de 3 mois. Reportage d'Ismaël Obiangze à Libreville.
Selon le nouveau texte du gouvernement gabonais, tout taximan exerçant dans le périmètre de Libreville doit être titulaire d'un permis B et D en cours de validité. Il doit aussi avoir réussi les tests d'aptitude qui lui donnent droit à une carte professionnelle. Le gouvernement dit aussi qu'il faut être âgé de 21 ans au moins et de 60 ans au plus, un ensemble de mesures saluées par certains taximans.
Le métier de taxi, c'est un métier noble, hein, mais d'aucuns pensent que c'est juste de l'amusement ou bien parce qu'on n'a plus rien à faire. On a tout perdu, donc du coup, lorsqu'on exerce un travail comme un métier de taxi, d'être taximan, c'est bien, avoir une carte professionnelle, c'est une bonne idée. À 60 ans, l'homme a déjà des faiblesses, l'homme n'a plus les mêmes réflexes.
Si nous n'avons rien d'autre à faire et que c'est le métier de taxi que tu as choisi, ça devient ta fonction. Et tu as le droit à une carte professionnelle pour être dans le transport. À ce moment-là, il faut que tu sois reconnu par le ministère de transport. Au lieu d'être un taximan, on peut dire ambulant.
D'autres conducteurs de taxi y voient une contrainte supplémentaire en dehors des tracasseries quotidiennes sur les routes de Libreville.
Tu as ton permis, tu dois encore le médical. Tu as le médical, tu vives de rien, il faut toujours manger. Pourquoi nous sommes obligés de vivre quand tu as une variance, tu as 1000 francs, tu passes. Pourquoi les gens conduisent même dans Libreville, non seulement à Libreville, ils conduisent comme ça sans permis.
Est-ce que vous avez déjà la carte professionnelle que le ministère des Transports demande?
Vous savez, non, j'ai seulement le macaron de taxi.
Il y a des personnes âgées aussi qui sont dans les locations. Bon, il y a la difficulté, ils n'ont pas les soutenances ailleurs. Vraiment, ça va pas être facile pour eux.
Aloïse Eyon-Jafet, chef de service de la circulation routière au ministère des Transports, explique le bien fondé de ces mesures.
Pour nous, ce ne sont pas des professionnels. Il ne s'agit pas de se lever un matin, de prendre un véhicule et de dire qu'on est taximan. Il faut une formation appropriée. Formation qui atteste que la personne connaît le plan de circulation d'une ville, connaît la réglementation et la circulation routière, permet de savoir que cette personne a véritablement obtenu un permis de conduire. Beaucoup ont du mal même parfois à orienter leurs clients. Donc la carte professionnelle est bien indiquée pour attester du côté professionnel de ces gens qui conduisent et qui nous conduisent tous les jours.
Libreville, Ismaël Obiangze pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraogo. Tout le lundi soir, VOAAfrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.